Parlons sport avec Lionel et Valérie sur RTVFM.
Bonsoir et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de sport RTV Sport. Nous sommes bien sûr en direct sur le 102.2 avec mes colistiers Valérie. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Et Jean-Yves, salut Jean-Yves.
Bonsoir à toutes.
Bon, bien remis de ton week-end, notre week-end.
J'ai passé samedi après-midi avec des gens sympas. On en reparlera tout à l'heure.
Bah ouais.
Je crois que t'étais là, non?
Ouais, j'étais là. Et hier, ça s'est bien passé?
Parfaitement bien.
Les voix du Seigneur sont impénétrables, c'est ça?
Amen.
Donc sans commentaire. Alors ce soir on a le Motoball, l'invité d'honneur, et on est vraiment ravis de les avoir. La saison est terminée et pour en parler donc on a Bastien Lafont, le gardien de l'équipe première. Bonsoir Bastien.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et Romain Flandin, un joueur attaquant, polyvalent on m'a dit, parce que c'est le meilleur joueur on m'a dit, hein, c'est ça. Salut Romain.
Bonsoir.
Donc Romain Flandin.
Timide en plus hein. Il est timide, Romain.
Ouais, mais pas sur le terrain, on m'a dit. Donc, on verra un petit peu si sa timidité.
T'as vu sa veste de survêt?
Ben ouais.
Bon, alors, voilà.
Et c'est pour ça.
Tu dis vous quand tu lui parles.
Ouais. Respect, c'est ça. Bon, on en parlera tout à l'heure, justement. Alors, avant de parler motoball, on va parler des résultats locaux. Qu'est-ce que tu as, Valérie?
Il n'y en a pas spécialement beaucoup. Il y a un peu de basket, du tennis de table, du handball, encore du basket et un peu de football et quelques résultats du judo. Donc voilà. Donc je vais commencer avec l'ABC de Carpentras, donc en basket. Hein. En U11, garçon, Carpentras donc, recevait Orange et Carpentras s'est incliné 18 à 45. En U11, fille, Carpentras là, se déplaçait à Orange et s'est imposé 12 à 7. En U13, garçon, Carpentras là aussi s'est déplacé à Lille-sur-la-Sorgue et l'a emporté 68 à 20. En U13, fille, Carpentras recevait Lille-sur-la-Sorgue et s'est incliné 23 à 63. En U15, garçon, Carpentras se déplaçait à Robion et l'a largement emporté 114 à 23. En U18, garçon départemental, Carpentras s'est déplacé à Morières et s'est incliné sur le score de 54 à 64. En U18, fille, Carpentras, là aussi, s'est déplacé à Orange et s'est imposé 52 à 48. En U17, garçon région, Carpentras recevait Haute-Provence donc, et s'est incliné sur le score de 60 à 63. Et enfin, en senior fille, Carpentras se déplaçait au Pen Mirabeau et se sont imposés 64 à 50. Je vais continuer avec le basket avec l'équipe de Sorgue, l'équipe 1 de Sorgue, donc lors de la 10e journée, s'est inclinée face au basket club.
Au leader. Je te laisse le dire, celui-là, il est bon à dire.
Souffel Weyershine sur le score de 66 à 87.
On dira Schuffel pour le reste de la saison, tout le monde dit Schuffel.
Voilà, oui, vaut mieux. Hein, Schuffel, voilà, sur le score de 66 à 87. Et au classement général, Sorgue est 8e avec 15 points, à 2 petits points quand même du 3e qui est Saint-Vallier et à 5 points du 1er Schuffel.
On y reviendra, on a des trucs à dire sur le basket.
Bah ouais, on était en direct mercredi dernier pour les 32e.
C'est pour ça qu'on a des trucs à dire sur le basket.
Voilà,
mais là, ça sera après le motoball. Ouais.
Voilà, on en parlera tout à l'heure.
Oui, mais on a des trucs à dire sur le basket. Voilà.
Allez. Ah bon ? On a des trucs à dire sur le basket ?
Voilà, il y avait du tennis de table. Vendredi, donc, avait lieu le 4e tour du championnat par équipe. Carpentras, donc, a eu quelques matchs et malheureusement, bon, ils ont perdu les trois quarts. Donc, en PR, Carpentras perd 5 à 9 face à Lille-sur-la-Sorgue. En division 1, équipe 2, ben, Carpentras perd 2 à 12 face à Morières. En division 1, équipe 3, ben, Carpentras accroche le nul. 7 à 7 face à Morières. En division 2, poule, équipe 4, pardon. Carpentras perd 2 à 12 face à Avignon. Et enfin, en division 2, équipe 5, Carpentras perd 6 à 8 face à Monteux. Donc voilà. Il y avait du handball aussi à Mazan. Donc la Nationale 2 donc, se déplaçait à l'Étoile Beauvallon et s'est inclinée sur le score de 25 à 29. Au classement général, Mazan est 7e. C'est pas mal quand même. Hein.
Après avoir fait un gros match, elles ont tenu quasiment tout le match, puis elles ont explosé un petit peu à la fin.
Elles se sont effondrées au dernier quart d'heure. La Nationale 2 rencontrera donc la semaine prochaine au COSEC de Mazan hier. D'accord. En pré-national, les filles donc l'emportent face à l'Union Pays d'Aix-Bouc-Bélair sur le score de 34 à 25. En moins de 18 ans, championnat de France, Mazan donc recevait Aramon et s'est imposé 53 à 20. En championnat de territoire, l'Entente Carpentras-Mazan donc l'a emporté face à Bolène sur le score de 30 à 20 et conserve sa première place. En moins de 15 ans, élite PACA, Mazan a réussi un petit exploit à Plan de Cuc en obtenant la victoire 33 à 31. Voilà. Il y avait aussi du rugby à 13, c'était la sixième journée. Entraigues, oui. Villeneuve-Minervois, 26 à 4 pour Entraigues.
Ouais, un bon résultat pour les Entraigois. Enfin, l'opposition était relativement faible, mais les Entraigois ont fait le job. Et puis, c'est un bon match pour la confiance. Là aussi, on y reviendra parce que j'ai des infos par rapport aux incidents du week-end dernier. J'ai quelques infos sympas. Donc, effectivement, on va y revenir.
D'accord. Mais au classement général, Entraigues est 9e. Hein. Il y avait aussi donc, du football la sixième journée en régional 2, poule C, Carpentras recevait Martigues un partout au classement général. Carpentras est 7e à 2 petits points du 2e Fréjus et à 8 points du 1er Rousset.
Ah oui, donc ils sont tous dans un mouchoir de poche.
Oui, ils sont tous, c'est la 6e journée, mais là ils sont vraiment tous dans un mouchoir de poche comme tu le dis. Il y avait aussi du judo. Il y avait un circuit PACA minime à la Moutonne. Marius Fuentes, en moins de 50 kilos, se classe 2e après un super parcours, 4 combats, 4 hippons. Il ne s'incline que lors de la finale. Donc voilà, très, très bon augure, hein, puisqu'il n'est que minime, hein, première année. Il y avait aussi Julien Spado, en moins de 66 kilos, pas de 166, mais 66 kilos.
C'est vrai, il a grossi.
Voilà, se classe 3e dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Il passe dans la catégorie supérieure pour quelques centaines de grammes. Donc parcours encourageant, hein. Mais encore du travail à faire, surtout sur le kumikata. Tu nous diras ce que c'est qu'un kumikata ?
Je ne sais pas.
Non, pourtant, tu as dû faire du judo.
Ouais, mais je ne me rappelle plus.
Bon, on cherchera ce que c'est alors. À noter également donc, les bons parcours de Manon en moins de 70 kilos et Dylan en moins de 50 kilos. Tous deux, première année minime, qui ne se classent pas. Ainsi que Maëra en moins de 57 kilos, non classée également. Encore un peu timide, mais toujours volontaire, ce qui payera à coup sûr d'ici quelques temps. Donc voilà pour ce qui est d'infos locales.
J'avais du rugby, moi. Du rugby à 15. Avec la Fédérale 1, Bédaride qui s'est incliné du côté de Nice sur le score de 36 à 23 avec un arbitrage azuréen, on va dire. Et voilà, ça laisse un petit peu des regrets encore une fois. Mais l'arbitre a beaucoup influencé la rencontre, manifestement. Et les Bédaridés qui se retrouvent 7e ce soir au championnat. Et il va falloir vite se reprendre dès ce week-end contre Bonne. Il y avait aussi les Monteux en fédéral 3. Monteux qui se déplaçaient du côté de Cavaillon, gros derby. Cavaillon, c'est la grosse équipe cette année de la fédérale 3. Et Monteux a perdu sur le score de 38 à 7. Ça commence à piquer un petit peu. Je me suis laissé dire que quelques joueurs étaient pas très contents du côté de Monteux et que la fin de saison allait être très 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 compliquée.
Ouais. Assez houleuse.
Assez ouais. Houleuse.
Bon. Donc Valérie, au niveau du kumikata, en fait, c'est au niveau des prises des saisies.
Ah d'accord.
Okay. Voilà, tout simplement.
D'accord. Bah, merci.
Merci
pour
Wikipédia.
Ouais, c'est vrai.
Sinon, tu voulais nous parler du rugby à 13 ? De ta petite info, autant la donner maintenant.
Non, mais c'est pas, il y a rien de secret. Simplement que la fédération a visionné le. Alors, il y a deux choses. La fédération a visionné les événements. Ils ont appelé ça eux, les événements du match de la semaine dernière. Ils ont déjugé leur arbitre.
Sur la faute de
Stéphane Vincent,
sur le carton rouge.
Stéphane Vincent a été déjugé sur le carton rouge. C'est-à-dire qu'ils ont dit. Non, c'est pas pour l'instant. Là,
non, mais ça, c'est,
voilà.
C'est la seule.
Ça, c'est l'info, voilà. L'info de la Fédé. J'en ai parlé ce week-end à Carcassonne avec des gens de la Fédé. Donc, la première chose, c'est qu'ils ont déjugé l'arbitre sur le carton rouge en disant que le carton rouge n'était pas mérité et que forcément, ça pouvait avoir une influence sur la suite du déroulé du match. Le joueur d'Entraigues a été blanchi, il n'a pas été suspendu. Ce qui laisse une porte ouverte à, on va dire, une nouvelle étude des événements qui ont suivi. Nicolas Vinal, le président d'Entraigues, est suspendu, aucun doute là-dessus, je l'ai vu hier, j'en ai parlé avec lui. Il est suspendu, il doit se justifier dans les jours qui viennent devant les instances fédérales. Mais par contre, des gens de la Fédé sont très 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 ennuyés pour la suite à donner à ce truc-là. Parce qu'ils ont déjà déjugé leur arbitre, ils ne savent vraiment pas comment se sortir de ce truc-là.
Match rejoué sûrement.
Match probablement pas rejoué, mais c'est un vrai problème. Samedi, j'ai discuté en off là, avec un gars de la Fédé. Ben, lui aussi, il ne savait pas trop... il m'a dit, Jean-Yves, on est très emmerdés.
Parce que là, j'ai vu sur le site de la Fédération française de rugby à 13, où justement, ils avaient mis à égalité les deux équipes.
Pour le moment, les deux équipes sont à égalité, sous réserve.
Ce qui n'est pas logique non plus, parce que le match n'était pas terminé. Donc, l'une, que ce soit Entraigues ou Carpentras, pouvait perdre. Donc, quelque part, c'est pas logique.
C'est exactement ce que je te dis. C'était à la réception samedi soir, là, en deux mots. Le gars de la Fédé m'a dit, Jean-Yves, on est dans la merde avec cette histoire-là, parce que l'arbitre n'a pas été bon, on le sait, puisqu'on l'a déjugé. Mais maintenant, on ne sait plus comment se sortir de ce truc-là. Match à rejouer, ben, il faudrait le rejouer dans les conditions exactes de dimanche dernier, c'est-à-dire avec le même groupe, etc. Donc autant te dire que c'est presque impossible à faire. Laisser le match à égalité, eh ben, c'est frustrant pour les deux équipes qui pouvaient espérer gagner, d'autant plus que maintenant on enlève la partie carton rouge et du coup c'est plus la même.
Ouais, 13 partout,
ouais. Donc voilà, c'est une épine du pied, comme seule la Fédération française de rugby à 13 sait s'en mettre de temps en temps. On en a parlé toute la journée l'autre jour avec Lionel. Voilà, c'est un truc dont on va sûrement parler beaucoup dans les prochaines semaines. En tout cas, pour le moment, on en est là.
D'accord. En tout cas, ça fait coller beaucoup d'encre et malheureusement, je pense que déjuger un arbitre, c'est quelque chose qui est relativement rare et je m'inquiète un peu pour l'arbitre parce que même, bon, il a fait une bêtise,
non, mais bon,
tout le monde en convient, mais à un moment ou à un autre, tu règles tes affaires en famille et tu évites de déjuger devant tout le monde un arbitre, surtout c'est certainement sa première faute. Et le souci, c'est que maintenant, ça laisse la porte ouverte à n'importe quoi. Donc cet arbitre-là, je ne pense pas qu'on le revoie de sitôt sur les terrains.
Enfin, il a quand même, on va dire quand même honnêtement, hein, puisque nous on était présents, à part peut-être cette erreur. Bon, moi j'ai trouvé qu'il y avait faute quand même, même si le joueur dit qu'il ne l'a pas vu. On a bien vu voler quand même le joueur de Carpentras.
Ouais, on le voit aussi sur la vidéo, parce que j'ai vu la vidéo, on le voit bien prendre ses appuis aussi, Hugo, pour aller voler.
Je ne dis donc, pas le contraire. Bon, maintenant, voilà.
Ouais, mais l'arbitre, il n'a pas la vision, si
donc,
tu veux, le replay,
coup,
quoi.
Il a vu sûrement ce que nous, on a vu, c'est-à-dire Hugo voler et atterrir tête, épaule, bon, sur le sol, d'accord. Après, lui, il a cru que c'était bon. L'arbitre, on lui a dit non, il n'y a pas faute, le carton rouge revient sur le terrain. Mais après, l'attitude, effectivement, malheureusement.
De Hugo, toujours
pas de Hugo. Ne dis pas que c'est d'Hugo, il a été insulté tout au long.
Non,
il faut connaître tous les trucs.
Ouais, moi aussi,
le problème, il est là.
J'y étais hier, donc on va pas
polémiquer dessus.
Non, on va pas polémiquer.
La fédération prendra son...
Mais voilà, toujours est-il que la Fédé est très emmerdée sur ce coup-là. Et il y avait les instances fédérales samedi avec nous. J'ai parlé en off avec un ou deux, là, et voilà, c'est un truc qui pue.
Qu'il fasse rejouer le match, et puis c'est tout.
Voilà. Si bah, de toute façon, dès qu'on a des news, hein, bien sûr, on vous en fera profiter. Allez, t'avais d'autres résultats au niveau local?
Non, juste une info du côté du basket de Sorgues.
Qui joue mercredi prochain. Ouais.
Voilà, qui joue mercredi prochain, qui se déplace.
Non, il joue à domicile, je crois. Non?
Il se déplace
contre les...
Je sais plus, ça va me revenir. Il y a eu quelques petits tiraillements dans les vestiaires après le match contre Schuffel. Il risque d'y avoir quelques modifications dans l'effectif. On y reviendra. Juste revenir aussi sur le match auquel on a assisté et qu'on a eu la chance de commenter. Ce 32e de finale de coupe, c'était un grand moment de basket, un grand moment de sport, avec une équipe de National 1 qui a sorti une équipe de Jeep Elite. C'est rare, cette année il y en a deux. Il y a Schuffel qui a sorti Saint-Quentin, mais là par 30 points d'écart. Et puis le Sorgues Basket Club qui fait un exploit extraordinaire en sortant Fosse, une ambiance de fou et vraiment un énorme match. Bravo à tous les joueurs et bravo à l'ensemble du staff.
Surtout qu'ils ont gagné dans les dernières minutes. Hein,
vraiment, ouais, puis... Même puis au mental, seconde. Peut-être que les joueurs de motoball qu'on a à côté de nous peuvent apprécier ce genre de truc parce que ça s'est fait au mental, ça s'est fait à la hargne et puis au respect des consignes. En fait, voilà, c'est le genre d'exploit qu'on fait très rarement dans une carrière de sportif, en tout cas.
C'est clair. Allez, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze et Charmelle.
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région.
C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pedri.
Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête.
On veut un verre de Chabrol,
un petit bout de gnole.
Les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre,
plus sûr les monétières.
C'est pire qu'un testament.
Au-delà d'une providence, on est des petits enfants de ce joli coin de France. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, sers-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Papaya.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, sers-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Radio Territoire Ventoux, l'esprit jeune.
RTVFM.
RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio. Par contre, on va falloir revoir le jingle, l'esprit jeune, avec l'animateur que j'ai à ma droite. Excuse-moi, oh là là. Qu'est-ce qu'il est jeune.
Sûrement que je suis jeune. Jeune et beau.
On dit rien.
Non, rien.
Allez, la suite.
La suite. Donc, les résultats au niveau national. Il y avait l'équipe de France de rugby à 15 qui jouait samedi soir. Ils ont bien commencé. Hein, à la mi-temps, je crois qu'ils étaient devant. Par contre, ça s'est un peu gâté. À la fin du match, parce que malheureusement ils ont perdu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Jean-Yves?
Je peux te dire que il y aurait tellement à dire. Déjà, quand tu fais pas de formation, au bout d'un moment, ça se commence à se voir. Ça, c'est la première chose. Quand tu es obligé de faire jouer des mecs comme Mathieu Bastaro au centre dans une équipe de France, à un moment, pour moi, c'est une anomalie. Mais j'aime trop le rugby pour trouver ça bien. Il y a des fautes professionnelles pendant toute la soirée. J'ai regardé le match, mais quand tu vois qu'on ne trouve pas une touche à la fin, alors qu'on mène, on se précipite pour jouer un ballon rapidement, on ne le joue pas
correctement. Mais ça, c'est l'équipe de France d'une manière générale. Hein. Ils ont toujours été comme ça. Hein.
Oui, c'est l'équipe de France d'une manière générale, sauf que là, ça te coûte un match.
Ah oui.
Que c'est le 8e match de Brunel et que finalement, Brunel, depuis qu'il est là, en a gagné 2 sur 8.
Oui, donc bilan catastrophique.
Et que pour moins que ça, on a viré Noves il y a 2 ans, un an et demi. Voilà. Alors, y a, le problème, c'est que maintenant, tu joues avec la pression. Tu joues avec, avec le stress. Les joueurs de motoball qui sont à côté le savent bien. Quand tu enchaînes les défaites, et ben après, tu es dans une spirale où tout ce que tu le tentes avec la pression. Tu as peur de le rater. Et du coup, c'est là que tu le rates. Tu fais des conneries. Sur le dernier essai, cette mêlée des accès, c'est un cas d'école de la part des Sudaf. Mais normalement, on sait, quand on est pro, on sait contrer ce cas d'école. Une mêlée qui se désaxe, et ben t'as un mec qui vient se désaxer de l'autre côté. Le demi de mêlée doit en plus dire aux mecs qui ont la tronche dans la mêlée, attention à droite à gauche, à droite à gauche. Et voilà, c'est des erreurs de presque de débutants, c'est des erreurs de mecs qui jouent sous pression. Et puis on les voit, ces mecs-là, ils sont pas tranquilles malgré tout. Ils ont des occasions de plier le match, ils le plient pas. Voilà, alors là, ils vont peut-être avoir encore un match compliqué contre l'Argentine, qui aurait dû être normalement juste
une formalité.
Là, ben, ils se sont mis dans la merde. Ils vont être obligés.
Oui, parce qu'ils ont la pression maintenant.
Ils vont être obligés de se taper l'Argentine avec la pression. Et c'est pas facile parce que, aussi bien l'Afrique du Sud, tu sais à peu près comment ça va jouer. Tu sais que ça joue devant, que c'est dur devant, que l'Argentine, à chaque coin de terrain, peut te faire péter une relance, une attaque. Et là, tu sais pas d'où ça vient.
C'est vrai que l'Argentine était imprévisible.
Voilà. Donc ben voilà, ils vont encore se foutre sous pression. Et si tu perds contre l'Argentine, ben c'est pas dit que tu perdes pas contre les Fidji, qui sont 20e nation mondiale, je crois. Voilà, au-delà de ça, ça pose plein de problèmes. Ça pose des problèmes de technique individuelle. Les mecs, tu vois des mecs arriver en équipe de France qui ont zéro technique individuelle. Je reprends encore l'exemple de Bastaro, mais il sait pas jouer un 2 contre 1, il sait pas faire une passe sur un pas.
Bastaro, en fait, on le prend beaucoup pour comme un bulldozer. Hein. C'est-à-dire qu'il a le ballon, en règle générale, il va jusqu'au bout. Hein.
Ben ouais,
sauf lorsqu'il se retrouve contre des gros gabarits les All Blacks, c'est où là, il bouge pas. Mais
c'est parce qu'on attend un 3-4 centre. On attend un 3-4 centre que...
Mais c'est pour ça qu'ils le prennent. Hein.
Qu'il crée des choses. On attend un 3-4 centre. Alors après, moi, je suis un peu nostalgique du vieux rugby aussi. Mais un 3-4 centre, c'est un mec qui sait faire des passes, qui sait faire des crochets, qui sait décaler ses ailiers. Bastaro, la dernière fois qu'il a fait une passe, je crois que c'était en cadet première année. Et depuis, il n'en a pas refait d'autres. Enfin, et je te parle de Bastaro. Mais
non, nous, on n'était pas nés, mais Jean-Yves était né.
Bien sûr que vous étiez né. Mais il y a plein d'autres mecs comme ça. Il y a un ensemble de joueurs qui subissent une énorme pression de la part de l'entourage et de la part du pays, on va dire. Et puis, il y a surtout ces mecs-là qui ont des carences en matière de formation, de technique individuelle qui...
Mais je pense que c'est toute la formation au niveau de la France qu'il faut revoir. Parce qu'on en parlait l'an dernier avec Alexandre, je ne sais pas si tu te rappelles, Valérie.
Ouais, ouais.
Comme quoi, y avait beaucoup d'étrangers justement qui jouaient en France parce qu'on n'est pas capable de sortir de très très bons joueurs.
Oui, absolument. On est allé chercher parce que c'était plus facile. On a choisi d'avoir un beau championnat de France, le meilleur championnat de rugby du monde. En tout cas, c'est le plus coté, c'est celui où il y a le plus de stars, etc. Mais pendant que tu fais venir dans le top 14, je crois que sur les 14 équipes, il y a deux ou trois clubs où le 10 est français, titulaire est français. Donc eh ben forcément, tu as 10 clubs où c'est des étrangers. Ouais. Forcément, eh ben, ta palette, quand tu veux sélectionner un mec, eh ben, elle est moins large. Les piliers, c'est pareil. Pendant des années, on a pris des Sudaf, on a pris des Néo-Zélandais, on a pris... Eh ben, au final, eh ben, quand tu as besoin d'un pilier, tu es obligé de prendre un pilier qui, il y a 10 ans ou 15 ans, n'aurait même pas été titulaire en club. Et là, eh ben, tu es obligé de le prendre en équipe de France parce qu'il est issu de la formation, Et voilà, et on se pose toujours ces questions-là. Alors, il y a beaucoup de boulot qui est fait. Je peux t'en parler puisque du coup, je fais partie de ces entraîneurs qui vont en formation régulièrement. Mais oui, on fait énormément de formation. On reprend à zéro l'ensemble de la formation. Mais j'imagine, les gars, que ça doit être pareil au motoball. Encore qu'au motoball, vous ne faites pas la bêtise d'aller chercher des Russes et des tchèques dans vos clubs, mais ça pourrait très bien arriver, non?
Oh, sur certains clubs, ça arrive déjà, quoi.
À Robion, par exemple.
Oui, c'est les clubs qui ont les moyens, mais obligatoirement, ils investissent.
Donc forcément, au bout d'un moment, eh ben, ton équipe nationale est moins forte et il faut reprendre tout ça. Il y a des générations entières qui ont été sacrifiées. Ben, ça va prendre 10 ans pour reformer des joueurs. Et même,
est-ce qu'il y a l'ambition déjà de reformer ? Parce que bon, Toulon est réputé quand même comme un bon centre de formation. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent jouer en France.
Toulon, bizarrement, c'est le club qui, depuis le début de la saison, fait jouer le plus de joueurs GIF, c'est-à-dire joueurs issus de la formation française. D'accord ? C'est des mecs qui ont fait leur formation en France. Mais même là-dessus, on est capable, comme au foot maintenant, d'aller chercher des Fidjiens à 14 ans, de leur filer un peu d'argent à leurs parents. Et ces Fidjiens, quand ils ont 18 ans, ils s'appellent Wakatawa, et ben ils se retrouvent français, issus de la formation française. Mais c'est pas toi qui les as formés. Ces gamins, ils arrivent avec un bagage que toi, déjà, t'as été incapable de leur donner. Et moi, je vois bien, j'ai les moins de 12 dans mon club. Je suis obligé, en moins de 12, de reprendre le basique, c'est-à-dire faire une passe, faire un plaquage. Donc, il y a énormément de travail, on les voit. Les cadres techniques se sont remis au boulot depuis 2 ans. Parce que là, on a vu des cadres techniques qui sortaient jamais de Marcoussis pendant des années. On les voyait jamais en club. Maintenant, on recommence à les voir en club. Les types, ils viennent prêcher la bonne parole. La parole a évolué aussi. La parole fédérale a évolué. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps.
Après, est-ce que c'est normal de voir des joueurs naturalisés jouer en équipe de France ? Je pense à Speeding.
C'est normal
à un moment ou à un autre. On a des joueurs français qui peuvent être capables. Si on les forme correctement, je pense qu'on peut. Mais aller chercher des étrangers, les naturaliser et les foutre en équipe nationale, ça me pose un problème quand même.
Ce qui est chiant, c'est si tu vas chercher. À l'époque, il y avait un mec qui jouait au centre qui s'appelait Tony Marsh, par exemple. T'allais chercher Tony Marsh. C'était un Néo-Zélandais, tu l'avais naturalisé, mais il t'apportait quelque chose. Il apportait un truc qu'on n'avait pas dans le championnat, d'accord ? Il apportait une plus-value. Là, aujourd'hui, tu vas chercher Scott Speeding, mais il y en a plein d'autres,
oui,
qui t'apportent rien de plus que n'importe quel autre bon arrière français. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que moi, ça m'énerve ce genre de choses. Quand je vois la composition des équipes de France, par exemple, eh ben ça m'énerve parce que toute l'année, il y a des joueurs français qui sont au frigo parce qu'on est allé chercher un Sudaf, un Néo-Zélandais, un Fidjien, un Tongien. Et quand je. Là, c'est dans ces cas-là. Et c'est pendant qu'on fait jouer ces mecs-là qui ne sont pas meilleurs que toi, mais qui sont moins chers aussi, il faut. Parce que c'est moins cher de payer un Fidjien que de payer un joueur français qui d'entrée va arriver avec son agent, qui d'entrée va dire « Ouais, mais moi, le minimum, j'ai 19 ans, mais c'est 5 000. » Et bien, forcément, du coup, on va chercher un Fidjien à qui on va filer 1 500 €. Et bien, ce Fidjien-là, 2 ans après, il est français, quoi. 3 ans après, il est français.
Non, mais c'est sûr que là, il y a un gros, gros souci. Et je pense qu'il faut revoir, même au niveau du règlement.
Ouais. Ça, c'est des règlements internationaux. C'est-à-dire quand au rugby, c'est pas le cas dans tous les sports, mais au rugby, quand tu as passé 3 ans dans un pays, tu es éligible pour jouer pour l'équipe nationale. Alors effectivement, ça, il faut le changer.
On avait eu le cas aux Jeux Olympiques, c'était en handball, où il y avait eu le problème justement, non ? Où il y avait eu justement le Qatar qui avait eu des joueurs étrangers.
Ouais, c'est le Qatar, ouais.
Donc en fait, il n'y a pas forcément que le rugby, mais pour moi, c'est un énorme souci. C'est-à-dire que tu es...
Tu peux t'acheter un titre, en fait.
Bah voilà, ouais, mais c'est pas normal.
C'est ce que le Qatar a essayé de faire.
Tu peux t'acheter des titres, mais...
Ils ont failli faire, d'ailleurs.
Au motoball, il n'y a pas ce problème-là, si ?
Non.
Parce que les joueurs français sont bons.
Ouais, non, mais c'est clair. Mais bon.
C'est vrai qu'on a de très bons joueurs en France.
Enfin, les joueurs français sont bons, mais...
Mais bon, les meilleurs, c'est
cette année. Mais cette année, par exemple, l'équipe de France en Russie, c'est compliqué aussi. La saison l'an dernier, ça a été compliqué aussi.
Mais toujours aussi.
Pour le championnat, c'était...
Oui, mais enfin, la différence, si je ne me trompe pas, c'est que les pays de l'Est, ce sont des professionnels.
Certains joueurs.
Voilà, certains joueurs sont professionnels. Nous, en France, non. Hein. Les joueurs. Voilà.
Mais je pense que oui, c'est le problème. Et j'ai remarqué aussi qu'au niveau de l'équipe de France de rugby, j'ai l'impression qu'elle est en train de régresser depuis qu'ils sont devenus professionnels il y a maintenant peut-être une quinzaine.
95.
Ouais, 95, j'allais dire.
Donc 20 ans.
25 ans. Ouais.
Et c'est vrai qu'avant, on avait une bonne équipe de France. Et maintenant.
Ça régresse depuis que. depuis qu'il y a de l'argent et depuis qu'on se dit que c'est plus facile d'aller payer un Fidjien que de former un joueur français. Ça régresse depuis ce moment-là. Donc la tendance est en train de s'inverser. Il y a du boulot qui est fait, beaucoup de boulot qui est fait. On fait des formations, on va... Voilà.
Bon, bah écoute, on fait une pause. Bon, bah en tout cas, on révolutionnera pas le rugby aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir
discuter
justement des problèmes de notre équipe de France. Allez, on fait une pause et on se retrouve juste après pour le motoball.
RTVFM.
Voilà donc de retour dans les studios de RTVFM. Nous sommes bien sûr en direct sur le 102.2. Donc si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Avec Valérie, bien entendu. Avec Jean-Yves, bien sûr. Hein, sans Jean-Yves, on serait perdu. Théo, notre technicien de ce soir, que j'ai pas salué en début d'émission.
Donc, salut Lionel, salut à tous.
Tu vas bien, Théo ?
Ça va super, ouais.
Bon, bah écoute, on va parler motoball. Donc je ne sais pas si tu connais.
Pas du tout, non.
Bah écoute, si tu veux intervenir, c'est avec grand plaisir.
Ouais, d'accord.
Donc, nous inviter Bastien Lafont, qui est le gardien de l'équipe première.
Bonsoir à tous.
Ça va, Bastien ?
Ça va très bien.
Ça y est, la saison est terminée, on se repose.
C'est les vacances.
C'est les vacances. Ouais. Et Romain...
L'entraînement reprend quand ?
L'entraînement, en général, début janvier.
Ah, bon, ça ouais, va, là, début oui, janvier. Des belles vacances.
Après les fêtes. On n'a pas le temps de digérer qu'il faut reprendre.
Ouais.
Et notre deuxième invité, donc Romain Flandin, qui est joueur de l'équipe première, mais également membre de l'équipe de France de motoball. Ça va, Romain ?
Ça va très bien.
première fois que tu es avec nous. Pas trop intimidé?
Non, pas du tout.
C'est vrai que Jean-Yves est un peu intimidant quand même. Avec,
Tu parles.
J'ai connu pire.
Bah, quand tu vois comment il met le casque et tout ça, il faudrait qu'on prenne en photo un de ces jours. Donc,
de la même façon que toi, en tout cas. Hein.
Ah, c'est pas gentil, Valérie. Ça, c'est,
non,
c'est,
mais c'est exactement de la même façon que toi.
Et c'est pour mieux t'écouter. Donc, Valérie, justement, quand est-ce qu'on peut nous réécouter?
Mercredi matin, donc de 6h30 à 8h, donc sur le www.rtvfm, ou en direct, hein, évidemment, hein, de, le mercredi matin.
En
différé, je veux dire. Bon. En différé. Ou sur le www.rtvfm.net, en podcast. Voilà.
Le podcast, c'est quand Lionel met le...
Le podcast, le mercredi podcast. En général, dans l'après-midi de mercredi.
Bah, ouais, ça dépend.
Ou le jeudi matin.
Ou le jeudi matin. Bah, et à ma foi, on est tous occupés. Hein, donc...
Non, mais ça dépend. Des fois, il y a des podcasts qui ne fonctionnent pas.
Ah, c'est qu'il y a peut-être des adresses qui sont mal mises.
Voilà, bon. Non mais voilà. C'est juste des petits détails. Mais bon, en tout cas...
Bon, ça arrive, hein. Ça... Il y a celui qui ne fait rien qui, lui, risque pas de se tromper.
Bah, tout à fait, voilà. Yeah. N'est-ce pas Théo? Mais bon...
J'ai rien à voir dans l'histoire, moi.
Donc, on va parler motoball. Alors, motoball, la saison est terminée. Au niveau du bilan général de Carpentras, bon, si on se base par rapport à l'an dernier, les gars, c'est vrai que champion de France l'an dernier, cette année, vous terminez 3e. En début de saison, vous attendiez justement à terminer 3e ou non? Vous espériez quand même un 2e titre?
On savait que ça allait être dur. Parce que quand on sort champion de France, on se déplace, on est attendu, quoi qu'il arrive. C'est logique, tout le monde veut faire tomber le champion de France. Donc obligatoirement, on savait qu'il y aurait une grosse opposition en face, à chaque match.
Ouais.
C'est logique.
Et globalement, au niveau des performances, vous êtes déçu sur le début de la saison, milieu de saison, fin de saison, ou non, pas du tout? C'est-à-dire que vous avez joué comme vous auriez dû jouer et c'est les autres qui ont été quand même vraiment meilleurs?
Il y a quelques matchs où il y a quelques regrets, mais sinon, à part ça, on a fait notre saison, on a un peu eu du mal à démarrer, on va dire.
Ouais, un peu
on va dire ça. Après, on a eu du mal à se mettre dans le rythme, mais sinon, dans l'ensemble, on a fait une bonne saison.
Bonne saison, d'autant plus que vous terminez 3e, c'est pas non plus catastrophique, et vous gagnez la Coupe de France.
C'était l'objectif.
C'était l'objectif.
Oui.
Parce que la Coupe de France, vous l'aviez déjà gagnée?
Non.
Ah, c'est vraiment quelque chose de.
De nouveau, alors c'était.
De nouveau.
Si, on a gagné, mais il y a très très longtemps, nos anciens.
Ah
oui. En 43, je crois.
Donc,
il me semble.
Donc ça fait très 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 longtemps quoi.
48, 49, je sais plus, c'était comme ça.
Je sais pas.
Oui, c'était. Dans je vous dis,
la lieu de naissance.
Demandez-moi les gars. J'ai vu sur la coupe. Non mais demandez-moi les gars, je vous dirai. Donc la première fois elle était gagnée en 1948.
Faux.
Ah, oui. Et la seconde en 49 ou en 50.
En 50. Et l'autre, la troisième, parce que c'est la quatrième.
La troisième, je ne me rappelle pas.
Un an après, en 51.
Ah ben voilà, on met comme ça.
Donc date de naissance de Jean-Yves.
Donc ça fait quand même, on va dire 67 ans. C'est bien 67
oui,
ans.
Oui, c'est bien, parce que c'est vrai que nous on ne l'a jamais connu. Donc c'est des bonnes émotions à vivre. C'est vrai qu'un championnat, c'est beau à gagner, c'est sur la... mais il n'y a pas de trophée. C'est sur la continuité, un championnat, mais il n'y a pas de trophée à la fin. Donc c'est vrai que brandir un trophée, surtout la Coupe de France, c'est quelque chose à vivre.
Sans compter qu'il doit y avoir une petite décompression quand même, et c'est une décompression presque normale, mais quand tu as atteint l'objectif d'être champion de France, surtout que les saisons précédentes n'avaient pas été fantastiques, là, le titre de champion de France, l'an dernier, il arrive... après quelques moments de galère, il doit y avoir, même sans le faire esprit, il doit y avoir une espèce de décompression qui se fait, en tout cas la motivation qui est probablement différente, et c'est plus facile dans ces cas-là d'aller chercher la coupe, où ça se fait sur quelques matchs au mental, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt que de s'y refiler pour un championnat complet.
C'est sûr, de toute façon, un championnat... C'est vrai que c'est dur de s'y remettre dedans une fois qu'on a gagné, mais c'est la preuve de notre début de saison, je pense aussi, parce qu'on arrive. Après, on a eu une grosse affiche d'entrée, donc c'est vrai que ça nous a mis dans le dur. Mais oui, il y a des équipes qui ça a été quand même pire que nous, qui ont été champions de France et qui après et l'année d'après c'était catastrophique. Ouais. Donc c'est vrai qu'une troisième place, on prend de suite hein. Après un titre, y a pas de souci.
Donc là, c'est Neuville hein, qui a gagné le championnat.
On a échangé les places par rapport à l'année dernière.
Ouais.
Ouais.
Et deuxième, c'est 3.
C'est ça.
Donc, en tout cas, c'est quand même une belle saison. En plus, il y a eu la Coupe de France. Alors, les juniors aussi ont joué. Alors les juniors, eux, ils ont terminé deuxième du championnat de France. Alors ce qui est dommage, parce qu'on en parlait justement avant le début de l'émission, c'est que dans la région sud, ils ont terminé premier. Et après, c'est ce que tu me disais, Bastien, c'est qu'après, ils rencontrent les premiers de la zone nord.
Une finale à un match aller-retour. Ouais.
Un match aller-retour. Ils ont terminé premier de la zone sud et ils ont perdu les deux matchs.
Premier de la zone nord. Les deux matchs, ils ont perdu, ouais.
Ouais, donc ils sont vice-champions de France.
C'est ça.
Et bah, ils ont également gagné la Coupe de France. Mm. Et par contre, ce qui est vraiment impressionnant, parce que j'ai toutes les statistiques, j'ai voulu me la péter, Jean-Yves Théolin, aujourd'hui, c'est que c'est la première fois qu'ils gagnent la Coupe de France.
Ouais.
Voilà.
Oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est
la première fois.
Ouais, les seniors, les juniors. Mm. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Tandis que bon, vous, c'est la quatrième fois, mais bon, n'empêche que les trois premières fois, elles sont négligeables depuis le temps.
On s'en rappelle pas.
On a passé le temps. et ah sinon, bon au niveau du championnat, comment c'est organisé c'est-à-dire que l'élite, il y a l'élite 1, l'élite 2, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
Et après, il y a combien d'équipes et comment ça fonctionne au niveau du...
Ben, au niveau de l'élite 1, c'est un championnat complet, comme que ce soit au foot en Ligue 1 ou au rugby au top 14 ou n'importe quoi.
Après, c'est sectorisé ou...
Non, du tout. Par contre, l'élite 2, oui. L'élite 2, ça commence par des confrontations entre les équipes de la zone sud, ensuite celle de pareil de la zone nord. Et ensuite, c'est le système de classement. C'est les deux premiers de la zone nord qui rencontrent les deux premiers de la zone sud pour accéder à l'élite. Ou les trois premiers, je ne sais plus. Et après, c'est les suivants. C'est ça, c'est les suivants qui se rencontrent pour définir le classement final.
D'accord. Excusez-moi, c'est mon accoudoir qui s'est senti du mal. Bah oui, ça arrive.
Et en cadet, c'est la même chose.
Et en cadet, c'est pareil. Ouais. Et par contre, donc, en élite 1, il y a combien d'équipes?
10, il me semble.
Non, on est 8.
8,
8 équipes.
8.
Et donc réparties dans toute la France, en fait.
Ouais, enfin, il n'y a pas
beaucoup d'équipes. Hein.
Mais il y en a déjà 2 ici, 3 ici, avec Monteux, Carpentras, Camaré.
Robion.
Donc tu en as déjà 4 ici. Neuville à côté de Poitiers, 5. 3.
Oulgat
et Vaugecourt. Ah, tu y es. Mm. Donc,
c'est vrai que le motoball n'est pas très médiatisé. C'est dommage. Hein, parce que, je ne sais pas si tu as vu des matchs.
Ah, mais moi, je suis désolé, les gars, mais je vais régulièrement à Monteux. Ouais, donc.
Oh, mais ça, il n'y a pas de souci.
Ça...
Vous nous voyez quand c'est pas chez vous.
Ouais. donc c'est pas médiatisé, c'est dommage. Après, le motoball, c'est compliqué à téléviser, par contre. Ça donne pas extra. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'en regarder en vidéo ou quoi, c'est compliqué à filmer. Et à téléviser, je sais pas.
Parce que la balle est trop petite.
Mais parce que c'est pas filmé par des professionnels, parce que si on était en professionnel,
pas les mêmes angles.
Voilà, il y a au moins 6 ou 8 caméras bien sur le terrain qui prend tous les angles, mais et ça joue avec les
mais manettes. Après, au bord du terrain, moi j'encourage tout le monde à y aller parce que
c'est ce qu'on fait chaque année.
Parce que c'est un spectacle de folie, il y a de l'engagement, il y a souvent un peu de suspense, de l'enjeu. Enfin. Moi, je suis assez fan de ça. Et puis, en plus, les joueurs de motoball, par certains côtés, mentalement, ça ressemble un peu à des rugbyman quand même. Hein. Mm-hmm. Vous êtes. Ça branche, ça chamaille, ça tiraille.
Mais disons qu'avec le bout des motos, on n'entend pas trop, donc obligatoirement, on profite.
Ah, mais c'est pour ça.
Donc, moi, je suis assez fan. Ouais.
Beaucoup de poussière, hein, quand on est près des.
Ça dépend, si tu vas à Camari, il y a zéro poussière.
Ah, ouais.
Mais,
justement, les terrains,
mais
c'est
toi
quoi
toi qui vas à Monteux souvent, c'est beaucoup de poussière.
C'est énorme. Quoi comme surface?
C'est clapissette ou enrobé?
Ah, l'enrobé, faut pas tomber. Hein.
C'est bien.
Ça glisse tout seul.
Ça glisse tout seul.
Ouais, bon, moi, c'est pas mon problème, mais ça glisse tout seul.
c'est l'avantage du
et
gardien.
Et moi, je vais poser une question, puisqu'il est gardien. Juste une question.
Et après, on fait la pause musicale.
Voilà, après. Voilà. Toi, tu n'as pas de moto,
non.
Évidemment. Donc,
il n'y a pas de permis, c'est normal.
Voilà. Ouais. Les balles, elles arrivent les ballons arrivent en général très vite ou bof? Parce que c'est très gros.
Ça dépend. Parce qu'il faut se dire, c'est que de l'air, c'est comme au foot, ça arrive à peu près à la même vitesse. Hein.
Ah bon? Je pensais
c'est la même frappe de balle. C'est la même frappe de balle, c'est juste plus impressionnant.
Plus gros.
C'est juste plus impressionnant parce que le jeu arrive plus vite, mais sinon c'est les mêmes impacts. Hein.
Oui, c'est la même façon de.
Ouais, c'est
ouais, mais ça se rapproche d'appui quand même. T'as moins d'appui quand tu tires. Hein, non, je sais pas, Romain.
Quand tu as pris 40 mètres d'élan et que tu tires à l'entrée de la surface, t'as moins d'appui, mais ça arrive très vite et l'impact, enfin, on voit des mecs capables de taper très très fort.
Oui,
ouais, c'était
oui,
bon savoir.
Parce qu'il y a certains joueurs oui, c'est.
Ça a déjà été chronométré, la vitesse des ballons ou pas? Non, ça n'a jamais été chronométré.
Je pense pas, non.
Ça serait bien de savoir. Des fois, on sait au tennis que c'est à plus de 200 km/h. Bon, là, je pense pas. Mais
t'as une formation de gardienne de foot, toi, ou juste motoball?
Non, j'en ai fait. J'ai arrêté l'année dernière, mais après, c'est à côté. C'est pas vraiment une formation.
T'as pas de. Parce qu'on sait qu'il y a quelques gardiennes de foot qui se reconvertissent peu, mais il y en a une paire là qui ont été des vraies gardiennes de foot et qui après sont parties au motoball. Toi, c'est pas ton parcours?
Non. Ça a été un peu l'inverse. J'ai joué au foot étant jeune, mais en joueur. Mm-hmm. Après, j'ai attaqué le motoball et là, je me suis mis au foot en étant gardien.
D'accord.
Il y a pas longtemps, il y a 3 ans, je crois. Il y a 3 ans, donc c'est vrai que c'est récent.
Bon, allez, on fait une petite pause. J'ai d'autres questions à lui poser. Allez, on fait la pause et on en parle après.
Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien.
Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio.
Ça s'appelait rock'n'roll.
Moi, ça m'a rendu fort.
Moi j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. T'y comprends rien, mec, ça se voit.
Ça faisait 1, 2, 3, mais maman 4, 5, 6, I miss you 7, 8, 9, can't get enough 10, 11, 12, I ain't got the blues 1, 2, 3, come on baby.
Voilà, de retour dans le studio après cette magnifique musique et pause musicale. Donc on parlait justement avec Romain, Bastien. Bastien qui est gardien de but. Donc on parlait justement des jours de foot, on faisait un peu le parallèle. Par contre, c'est pas trop frustrant de pas être sur la moto alors que tout le monde est en moto ?
Il arrive un moment, si, mais sinon, non, on suffit.
Il t'apprête la moto suffit. Des fois ?
Non, c'est moi qui veux pas.
C'est toi qui veux.
Ça m'intéresse pas.
Ah ouais ?
Non. Pourtant, j'en fais de la moto à côté, mais ça m'intéresse pas.
Alors, comment t'es venu au motoball alors ?
J'habite à côté.
Simplement ? Non, mais tu habites à côté ?
Ouais, c'est simplement ça.
Simplement donc, ça te détient
le bruit, frapper, le là, bruit au bout d'un moment, il faut dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais. J'étais petit, je crois que j'avais 6 ans, il me semble, le premier match que j'ai vu. Donc, on y est allé, puis.
Puis après, il a droit. Il a droit à son tour de moto 2 ou 3 fois dans la journée. Quand même.
Ah
oui,
il monte sur le bagage.
Ses copains le trimballent. Déjà, ils le livrent jusque dans les cages. Ouais. Après, ils le prennent à la fin.
Moi, je promène, j'ai la bonne place, moi, sur moto. Ouais.
Et donc, tu échangerais ta place pour un au monde ?
Non. Non. Non, franchement, non.
Ouais. Et ça fait combien de temps alors que tu joues maintenant ?
Ça fait 10 ans cette année-là.
2008.
J'ai attaqué avec les cadets.
13 ans.
Ouais. Ouais, ouais.
Parce qu'au club, on peut commencer à quel âge ?
12.
À 12 ans.
12 ans, ouais.
12 ans ?
Ouais.
Et il faut un bagage technique particulier ou pas ?
Non, c'est conseillé d'avoir un petit peu de foot, un petit peu de moto, mais il y a, comme disait Zanuso, il a fait du foot, il est monté sur moto, il n'en avait jamais fait. Donc, c'est vrai que et maintenant, il est en équipe de France à l'heure actuelle. Donc, on peut partir de rien du tout pour aller très loin. Donc, c'est vrai que c'est conseillé, mais.
Toi, Robin, ta formation, c'est quoi ?
J'ai commencé gardien, moi, au motoball.
D'accord.
Et t'en as eu marre et de pas monter, c'est ça sur
non, en fait, j'ai commencé gardien parce que j'ai un collègue qui était venu me chercher pour les aider, sinon ils repartaient pas à l'équipe.
Ah, tu fais partie de ces fameux gardiens de foot qui sont arrivés, non ?
Même pas, j'étais joueur de champ.
D'accord.
Et après, l'année d'après, je suis passé en moto et depuis, je suis joueur moto.
D'accord.
Ouais, et ça fait combien de temps que tu joues ?
Ça fait 15 ans.
15 ans ?
Ouais.
Oui, alors, ça commence à être vétéran.
Ah ouais. Ouais. Mais bon, membre de l'équipe de France, donc 3e saison en équipe de France.
Oui.
Comment ça se passe justement les sélections en équipe de France ?
On fait des présélections durant la saison complète.
Mmh.
Après, on fait des matchs amicaux contre l'Allemagne, on se déplace en Allemagne, on se déplace à Troyes, à Neuville, à Camaré. Et après, c'est le sectionneur qui fait son équipe. Et...
Mais il y a un endroit où vous vous retrouvez ?
Oui.
C'est où ?
Mais ça dépend. Des fois, c'est à Camaré, des fois, c'est à Troyes, des fois, c'est à Neuville.
D'accord. Si la question, c'est est-ce qu'il y a Marcoussis ?
Il n'y a pas de Clairefontaine. Non,
c'est vrai.
C'est la question que j'allais poser aussi. Donc, on avait tous la même idée.
Après, c'est plus simple.
Donc, en fin de compte, vous n'avez jamais joué ensemble. On vous met.
Voilà.
On vous met dans une équipe et puis, allez, on va jouer en Allemagne.
Voilà, c'est ça. Après, on se connaît un peu tous maintenant, oui. Les joueurs. Donc,
parce qu'à force de les rencontrer lors des tournois, enfin des différentes coupes et championnats. Quoi.
Ouais, après le panel n'est pas non plus super élargi pour les joueurs de motoball. Il y a 8 clubs. Et potentiellement, pour jouer en équipe de France, il y a 8 clubs. Mettons que là-dedans, il y a un ou deux joueurs de deuxième division qui pointent à la... qui tapent à la porte parce qu'ils ont déjà joué en première division la saison d'avant ou quoi, mais t'as pas non plus énormément. Enfin, c'est pas pour dénigrer, mais
c'est ce que tu fais quoi.
Pas du tout. Mais les sélectionneurs, enfin leur groupe, ils l'ont en tête. Ils savent où sont les joueurs. C'est plus facile à scouter, par exemple, un championnat de motoball où il y a 8 équipes, plutôt que d'aller scouter le championnat de Ligue 1, par exemple, où tous les week-ends, il y a 10 matchs.
Oui, mais la différence, c'est pas... Donc, déjà, il n'y a pas les mêmes moyens.
Ça, c'est sûr.
Hein, pas les mêmes moyens, il n'y a pas le même nombre de joueurs, etc. Et côté finance, voilà. Moi, ce que je pensais, qu'effectivement, parce que j'étais très surprise quand tu as dit qu'en fin de compte, vous connaissez parce que vous vous rencontrez sur les terrains, mais vous n'avez jamais joué ensemble. Et puis, c'est difficile quand même.
Bah, beaucoup d'équipes nationales. Hein.
Ouais.
Non, mais bon, les équipes
nationales... À part les stages qu'ils font de temps
en
temps.
Voilà, ils ont des stages.
Quand tu vois l'équipe de France de rugby, des fois...
Des fédés qui ont des Marcoussis et des fédés de Sport Co qui ont des Marcoussis et des Clairefontaine.
Non, mais il y a toujours des stages. Quand tu es dans l'équipe de hand, de foot, de basket, il y a toujours des stages. Mais là, ils n'ont pas de stages.
Mais il y en a aussi avant le championnat d'Europe.
Vu que c'est amateur aussi, ça y fait beaucoup. Donc, c'est vrai que...
Mais avant le championnat d'Europe, ils ne sont pas partis le jeudi pour jouer le vendredi quand même.
Non, mais d'accord, mais bon, ça ne fait rien.
Non, mais ils sont partis le mercredi matin.
Et sinon, Romain, il y a des joueurs d'élite 2 en équipe de France ?
Il y a eu des joueurs d'élite 2 dans les années passées, oui.
Mais on peut être en ouais, équipe 2 et jouer en équipe de France. Ou non.
C'est plus
difficile, quoi.
C'est plus délicat. Ouais,
c'est plus difficile d'être en équipe de France en jouant en élite 2 qu'en élite 1, quoi.
Bah, c'est-à-dire que sûrement le sélectionneur va plus regarder l'équipe 1 que les équipes. Oui,
c'est surtout qu'il y a, une grosse différence de niveau aussi.
Aussi, oui.
Ouais. Donc c'est vrai que.
Alors avant de continuer un petit peu en équipe nationale, je voudrais revenir un petit peu sur le sur les différents trophées qu'il peut y avoir en élite 1, parce que l'an dernier vous aviez gagné également le trophée des champions. Quelle est pour vous la récompense ultime, championnat de France, coupe de France ou le trophée des champions?
Moi je connais la réponse de Bastien.
Le plus beau c'est la coupe, voilà. Mais le meilleur c'est le championnat. Et parce que le championnat c'est sur la continuité, c'est sur l'année, ouais. Alors que la coupe c'est sur quelques matchs.
D'accord. Et le trophée des champions alors c'est quoi?
Trophée des champions c'est le vainqueur de la coupe contre le vainqueur du championnat.
Et ça c'est pas.
C'est un peu la coupe Camembert.
C'est pas pareil. C'est pas pareil.
C'est un peu la coupe Melba là. C'est la...
Et là vous avez deux
c'est
titres.
C'est la fin de la saison, c'est le truc qui.
Cerise sur le gâteau.
Ben c'est surtout ce qui sert à faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, il me semble.
Ouais, ça fait des finales, oui, bien sûr.
Ça fait un match de plus dans la saison. En général, moi, je me rappelle, j'y étais il y a 2 ans, c'était à Camaret. Il y avait Camaret, Monteux.
Ouais.
C'était à bloc de monde. Il y avait un monde de fou. Et ben voilà, les clubs, ça fait, tu craches pas sur une affiche supplémentaire. Qui
ouais, mais les joueurs, ils regardent pas ça.
Les joueurs, on ne parle pas des joueurs, mais on parle des clubs et de la fédé de moto. Pour info, tu sais à quelle fédé ils sont affiliés, les motoballs? Moi, oui.
La Fédération Française de Motoball.
Eh ben non.
Non, de moto.
De moto. De moto.
Vous l'avez déjà dit, Christophe.
Non, mais Bartolo. Il s'en fout, ce type. Ah ouais. Donc, tout ça pour dire que la fédé... tout ça pour dire que la fédé, non, en fait, l'organisme qui gère le championnat, crache pas sur une recette supplémentaire, qui plus est une belle recette en général.
D'accord.
C'est pour ça qu'on organise ce genre de match.
Valérie, tu voulais poser une question?
Non, ça y est, je ne me rappelle plus.
Tu te rappelles
plus. Jean-Yves a parlé, du coup, j'ai oublié. Je l'écoutais et j'ai oublié.
Donc, on revient un petit peu à l'équipe de France. Donc, championnat d'Europe, deuxième fois que vous échouez contre la Russie. Ils sont bons, la Russie?
Ils sont très bons.
C'est parmi les meilleures équipes, je crois. Hein.
C'est un peu la meilleure équipe.
C'est la meilleure équipe actuelle. Après, il y a l'Allemagne qui avait réussi à les battre 2 années d'affilée, 2014-2015. Mmh. Après, c'est la Russie qui gagne.
Ils n'avaient pas battu l'an dernier un match de poule à Camaret, l'Allemagne? Il me semble que oui, non?
Non.
Je crois pas.
Oh.
Non,
mauvais souvenir.
Ouais, mauvais. Par contre, j'ai vu qu'il y avait la Biélorussie.
Ouais.
Troisième cette année.
Ouais.
Ils sont bons eux aussi? Ils ont eu de la chance?
C'est une équipe très compliquée à jouer. Il y a beaucoup d'anciens joueurs. Et c'est une équipe, c'est beaucoup d'anti-jeux, beaucoup de blocages, c'est compliqué.
Ah, c'est du football, hein. C'est un peu pareil.
Non, ça n'a rien à voir.
Ah ouais?
Le championnat, un match international et un match d'élite 1, ça, c'est le jour et la nuit.
Ah ouais? Au niveau rapidité, à quel niveau?
Déjà au niveau vitesse, et après tout ce qui est blocage, anti-jeu, en élite 1, on n'a pas le droit de le faire. En règlement international, c'est nos limites, quoi.
Et justement, quand tu passes du championnat en équipe nationale, c'est ou plutôt l'inverse, d'équipe nationale en équipe de France, en club, c'est pas compliqué justement de se retrouver à changer les règles.
Si les premiers matchs, quand on part du championnat de France, quand on va en équipe de France, c'est vrai que les premiers matchs, il nous faut un temps d'adaptation.
Vous êtes super fair play, quoi.
Ben, parce que comme non, les règles pas sont plus... mais on joue à la française.
Eh oui.
Voilà, il doit être ça. Même là le problème, justement.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Le jour où ils auront changé les règles internationales, je pense que l'équipe de France elle pourra rivaliser avec la Russie.
Ou peut-être les règles françaises.
D'ici quelques années. Non, règles françaises, j'y crois pas.
Jamais.
Non, parce que les Russes pèsent beaucoup plus que l'équipe de France. Donc, forcément, si un jour il y a un changement, ça sera aux Français de s'adapter aux règles internationales et pas l'inverse. Sauf si un jour on décide de se dire que le règlement international, ça met trop la vie des pilotes en danger. Mais bon.
Non, ça met pas.
Bien sûr que ça met pas, mais maintenant c'est tellement tout sécuritaire là que t'es pas à l'abri qu'un jour il y a une type qui se blesse et qu'on dise ah ben non, mais là maintenant sur un bloc il y a une type qui s'est blessée, alors on va calmer le jeu. Enfin, on le voit dans tous les sports, mais au rugby par exemple, où la tendance, elle est à surprotéger les joueurs. Les joueurs et t'es pas à l'abri du que ça arrive un jour. Enfin, moi, je le souhaite pas, au contraire. Mais
après, ils en parlent de faire passer le règlement international en championnat de France.
Et pour toi, c'est quoi? C'est une bonne idée?
Moi, je pense que oui. Et après, c'est surtout pour les juniors qui arrivent qui vont arriver. Ça va beaucoup les aider pour l'équipe de France plus tard, quoi.
Ouais.
Oui, tu pourras ainsi rivaliser avec ces équipes comme l'Allemagne. Et
même l'Allemagne, ils ont un règlement, ils ont le règlement de la FIM comme la Russie. C'est l'Allemagne, c'est blocage, c'est comme la Russie, c'est pareil, quoi.
Tout à l'heure, Jean-Yves parlait justement de surprotéger les joueurs, etc. Mais quel est le principal danger pour un joueur de champ?
Les jambes.
Les jambes, oui, j'allais dire.
C'est les jambes.
D'ailleurs, les blessures, les principales blessures que toi, tu as pu avoir, c'est quoi?
Moi, j'ai eu une grosse blessure en 2016. Je me suis fait une acromioclaviculaire. Et du coup, ça m'a coûté une saison complète.
Sur un choc?
Ouais.
Ah ouais, donc. Et en tant que gardien?
Bon, les poignets qui morflent beaucoup. Après, c'est vrai que les. Il y a un peu tout. Le dos, il y a tout. Il y a tout. C'est vrai que sur un mauvais appui, sur un mauvais plongeon, sur n'importe quoi, on peut se blesser connement, j'ai envie de dire. Et ça peut aller très vite, quoi.
T'as un casque, toi?
Ouais. Ah oui.
Bah, il vaut mieux.
Comme il vaut mieux.
Oui, c'est vrai. Mais
on pourrait penser
Ils mettent des casques.
Non, il vaut mieux. Ouais.
Donc c'est bien.
C'est même de prendre un ballon dans la tête. Il vaut mieux avoir le casque que rien du tout.
Ouais. Ah, moi, je voulais poser une question concernant les championnats russes et allemands. Ils ont beaucoup plus d'équipes. Bon, évidemment, la Russie, c'est très grand, mais je veux dire, comparativement, ils ont beaucoup d'équipes. Hein. Est-ce que c'est un sport plus ou moins national ou pas?
En Allemagne, le championnat, c'est un peu comme l'élite de chez nous. C'est zone nord contre zone sud. Et après, ils font un play-off exactement comme
l'élite. Voilà, donc c'est un peu le même système.
Voilà. Après, je ne suis pas certain qu'ils aient plus d'équipes que nous. Quoi.
Et en Russie?
En Russie, c'est pareil. Ils doivent avoir 10 joueurs, mais je pense qu'ils n'ont qu'un championnat. Ils n'ont pas...
Et c'est plus médiatique chez eux? Parce que s'ils sont pros, c'est que forcément il y a des rentrées d'argent.
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est plus médiatique. Les joueurs russes, coupe-moi si je me trompe, mais il y a des joueurs russes qui sont de véritables stars.
Ah oui.
Des mecs qui sont connus, qu'on reconnaît dans la rue, alors que si tu croises Romain et Bastien dans la rue, tu sais pas qui c'est. Alors que les meilleurs Russes...
Si, moi, Romain Bastien, je les connais bien.
mais les meilleurs Russes sont reconnus et ils prennent un petit peu d'argent.
Le meilleur joueur du monde pour toi, c'est qui? Comme tu es en équipe nationale, tu dois le rencontrer.
Un Russe.
Pour moi, personnellement, je pense que c'est Kristopa.
Il est joueur de champ.
C'est un gaucher de la Russie, numéro 9.
Ah ouais,
ouais.
C'est le meilleur.
À l'heure actuelle, oui, pour moi, je pense que c'est le meilleur.
Bon, allez, on fait une petite pause et puis on continue à parler de l'équipe nationale.
Here we go, 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 here we go.
Feels new. don't wanna be running no more. I don't wanna be hiding no more. I just wanna be cruising, oh, by the shore. And I just wanna be free to ignore the hate you keep in store. Oh, sweet addiction, yeah. To you, you
got the legs on
reputation.
RTVFM.
Voilà, de retour dans les studios après cette pause musicale. On parlait de l'équipe de France de motoball. Ça tombe bien, on a quand même un joueur de l'équipe de France, c'est Romain. Je regardais un petit peu le classement. Après, on reviendra sur l'équipe de France. Le classement du championnat de France au niveau des buteurs. T'es 6ème. Tu le savais ?
Non, je suis plus haut, je pense.
Ah, parce que moi, sur le dernier classement, en tout cas, t'étais à 18 buts.
Il n'était pas à jour.
Mais sur le championnat de France.
Je parle du championnat de France.
La coupe et compagnie.
Ah oui, championnat de France. Sinon, au niveau, t'as d'autres...
Général ?
Ouais.
Au général, j'ai eu 4ème.
Ah ouais, 4ème. Ouais. Toi, j'ai pris le moins favorable pour toi. Et par contre, Jason était devant toi.
Ouais.
Il est toujours devant toi, même au...
Il est toujours. Il a fini deuxième meilleur buteur. Non, troisième. Deuxième meilleur buteur. Ouais.
D'accord, là il était quatrième, avait 22 buts. Et le meilleur c'était Dessina qui est de 3.
Ouais,
le
russe. C'est lui qui a fini meilleur buteur.
C'est un russe,
général.
Tu vois. Donc
c'est
il compte pas.
Non, c'est vrai que c'est un russe. Ouais.
Bah, après, voilà. Tous les russes ne sont pas des avions de chasse non plus, parce qu'il y en avait un Robur à un moment qui pensait.
C'est un biélorusse.
Un biélorusse. Ouais, qui pensait surtout à bringuer et à faire la Java plutôt que. Bah, après, quand il jouait, il était pas mal, mais.
Si ça se ressentait après sur le terrain.
Stemringer, il avait été secoué par la faune, par contre, quand.
Oh bah il a pas fini l'année, je crois, il me semble.
Non.
Ouais. ça avait été compliqué.
Alors, on revient justement au chemin d'Europe. Ils ont eu lieu où cette année? Parce que l'an dernier, c'était en France.
L'année dernière, c'était en France. Cette année, l'année dernière, c'était en Russie.
Non, l'an dernier, c'était en France.
Cette année.
2017, c'était en France. Ouais. 2018, c'était en Russie.
C'était en Russie.
Oui. C'était à Kovrov.
Alors, vous avez gagné, on va dire, une défaite, 3 victoires, c'est ça ? Un nul ? Et la défaite, c'était contre qui ? Contre la Russie ?
Oui.
Vous avez déjà gagné contre la Russie ?
Moi, depuis que je suis en équipe de France, non.
Et est-ce qu'il y a déjà des équipes qui arrivent à gagner contre la Russie ?
Oui.
L'Allemagne.
Et le fait que l'Allemagne soit derrière vous cette année, quatrième ? Ouais. C'est une contre-performance énorme.
Pour l'Allemagne, oui.
Ils n'ont pas l'habitude de ça, eux.
Non.
Et par contre, Pays-Bas, Lituanie, qui sont dans le fin fond du classement, comment tu les trouves, toi ?
C'est des équipes jeunes. Après, comment dire, ça joue au motoball, mais après, voilà, c'est manque de technique, manque de vitesse.
Ouais. Donc, ils ne sont pas à votre niveau, quoi.
Pour la France, non.
Il y a un championnat du monde ?
Non.
Non, parce que tout se passe en Europe.
Eh oui, les seules équipes sont.
C'est un peu
Europe.
Comme au Rwanda, en fait. Même s'il y avait un championnat du monde, comme la plupart des équipes sont en Europe, si tu prends le handball, par exemple, le championnat d'Europe est plus compliqué à gagner que le championnat du monde, qui est dilué. Et là, au motoball, il n'y a que des équipes européennes.
Moi, donc, c'est dommage, en fait.
Donc, mais parce que c'est dans la culture.
Après, il y a un club qui est en train de se monter petit à petit aux USA.
Mm-hmm.
Ils ont fait un match d'exhibition il y a 2 semaines, il me semble.
Angleterre aussi.
En Angleterre, c'est des démonstrations pour le moment.
Oui,
il y a pas de...
Ça, justement, papier, quoi.
Justement, les gars, sur le développement, j'ai vu là sur YouTube ces derniers jours où il y avait une démo en salle.
Voilà, c'est ça. C'est en Angleterre.
C'est en Angleterre, ouais.
C'est trois et l'Allemagne qui sont.
Ouais, ça pourrait être un axe de développement, ça, par exemple.
Oui, bien sûr.
D'aller jouer en salle et du coup de pouvoir jouer toute l'année, de pouvoir attirer un public différent.
Bah après. Moi, perso, j'ai jamais joué en salle, donc je ne saurais pas comment, quoi vous dire. Mais ça serait compliqué, je pense, d'avoir un vrai T1 aux normes en salle. Quoi.
Oui, sûrement qu'il faut les que joueurs, il y a peut-être moins de joueurs en salle. On doit avoir moins de joueurs, non?
Non, ça sera, ouais, ça, non, là, ça sera ça, le pareil.
C'était une grande salle, mais en tout cas, là, pour le coup, la vidéo, ça donnait plutôt... je ne sais pas si vous l'avez vu, mais
si, je regarde.
Ouais, la vidéo, ça donnait plutôt un truc sympa. Ils avaient pas appelé ça Motoball d'ailleurs.
C'est Dirt Bike.
Ouais, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Ou la légende, c'était il y a des mecs qui jouent. Apparemment, ceux qui ont fait la vidéo ont découvert qu'on pouvait jouer au foot avec une moto. Et la vidéo, c'était la légende, c'était il y a des mecs qui jouent au foot avec une moto, un truc de fou.
Oui, alors que ça existe depuis.
Et après, par rapport à cette vidéo, c'est vrai que sur Facebook, elle a été partagée par il me semble RMC. Je crois, je sais plus, pas mal de groupes de radio ou quoi que ce soit, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça se médiatise petit à petit et qu'on pourra avancer.
Non, c'est mais c'est une autre chose,
parce que c'est la médiatisation, quoi qu'il arrive.
Et à l'heure actuelle, au niveau France, il n'y a que des jeux en extérieur, parce que la saison, elle commence quand et elle se termine quand?
La saison, il y a les matchs de coupe de cadrage qui commencent mi-mars.
Donc début mars, ouais, mi-mars ça commence.
Après pour les équipes qui jouent le tableau, les finales et tout, ça joue jusqu'à mi-octobre quoi.
Ah ouais, donc vous avez un peu une sorte de calendrier inversé, c'est-à-dire que les équipes jouent plutôt de septembre à juin et vous c'est plutôt sur la partie été. C'est bien pour aller les voir comme ça au moins, c'est en plein été, c'est sympa.
Moi je trouve que
c'est moins froid.
Printemps.
Moi je trouve que c'est génial, mais on en parlait l'autre jour pour le rugby à 13 avec la Super League. Mais oui, bien sûr que c'est plus agréable pour tout le monde. C'est plus agréable pour eux déjà parce qu'ils se pèlent pas. C'est plus agréable pour les spectateurs de passer une soirée à Carpentras ou à Monteux ou à Camaret. Il fait bon, tu bois une bière, t'as pas froid. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus agréable. Et tu
peux manger sur place souvent.
Même pour les matchs, les conditions climatiques aussi. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup plus de matchs reportés et compagnie. Donc,
bien sûr. Et oui, dans tous les cas, c'est sport qui se joue l'été. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une meilleure idée que d'aller jouer à partir du mois de septembre là, et de passer tout l'hiver à te peler.
Bon, donc après, ça serait une bonne transition justement de faire du motoball en salle. Mais bon, ça déjà...
Il faut avoir les structures. Et les structures, à mon avis, elles doivent être imposantes. Hein.
Et il faut le physique aussi.
Ouais, il faut le physique parce que c'est fatigant.
Un match, c'est très dur.
Ça dure combien de temps un match?
4 fois 20 minutes.
Et le terrain, c'est quoi les dimensions?
Le foot.
C'est pareil que le foot.
Ouais, donc si tu fais ça en salle, je peux te dire, il faut une sacrée salle quand même.
Ben oui. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'en salle.
Ça se fera pas, nous, en France.
Je pense pas qu'en France, ça se fera.
À moins que ce soit professionnalisé, qu'il y ait aux États-Unis des équipes, en Europe, enfin partout en Europe, en Angleterre, exactement.
Une fois que le Qatar est revenu.
Voilà, c'est ça. Bon. Voilà, le Qatar, il vient.
Qatar.
Vous pouvez justement, vous avez l'antenne, faites un appel.
Le Qatar.
N'hésitez pas. Je voudrais revenir un petit peu sur l'équipe de forme. Bon, vous n'en faites pas partie, mais junior, parce qu'ils ont participé au championnat d'Europe cette année. Ça a été un peu la cata, quoi. Parce que là, ils ont terminé dernier, quatrième.
Ouais.
C'est dû à quoi?
C'est dû que, un peu comme les seniors, c'est des jeunes qui ne se connaissent pas, mais pas du tout. Après, ils jouent en club, certes, il y en a un, deux, trois, un peu de chaque club, comme les grands. Après, se retrouver tous dans la même équipe, c'est le gros problème. C'est chacun veut en faire un peu à sa tête. Et du coup, c'est un peu compliqué d'aller gagner des matchs.
Ce qui est un peu normal. Hein. Si tu n'as pas de stage, tu ne te connais pas. Voilà,
sans compter qu'en plus, tu ne peux pas te comporter, quand tu es entraîneur par exemple, tu ne peux pas te comporter de la même manière avec des seniors qui sont réceptifs, qui sont... plus sérieux, un peu moins timbré entre guillemets.
Fougueux, on va dire fougueux.
Ouais, fougueux.
Bah, ouais. Les juniors, ils ont 18 ans, hein. Donc bon, ouais, ils sont plus anciens ans, parce qu'ils ont 15 ans de.
18 ans, plein de testostérone, plein de.
Oui, c'est ça. Ils sont un peu.
C'est toujours.
Plus difficile.
C'est toujours plus difficile à gérer un groupe de cadets de juniors qu'un groupe de seniors dans tous les cas. Et les juniors.
Il y a un manque de maturité, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Sans compter que quand t'es junior, tu as pas. Si tu prends un groupe senior, par exemple, tu peux travailler sur la durée. Tu peux travailler en te disant je mets un groupe en place qui va évoluer petit à petit dans le temps, mais avec un ou deux joueurs que tu vas ramener chaque saison. Alors qu'en junior, c'est 2 ans ou 3 ans. C'est 3 ans comme au rugby chez vous, les juniors ? Ou 2 ans ? Enfin, dans tous les cas, c'est sur une période de courte où tu peux pas construire sur la durée, en fait. Tu peux pas construire sur la durée, du coup, allez-y, parlez-vous, les gars.
Sinon. Non, mais ils sont en train de compter sur leurs doigts.
Ils sont en train de compter.
La question qu'est-ce qu'il nous a posé comme question ? Attends, bouge pas.
Bon, non, mais ça, c'est Romain Flandin, il sait pas trop compter sur.
Non, mais vous êtes droit à un joker, les gars.
Le mental, il sait pas. Non, c'est 7 ans, les juniors.
7 ans ?
Ouais, 7 ans. Ben, de 12 ans jusqu'à 18 ans.
D'accord.
Ça fait du 7 ans.
Et bon, cadet, alors, qu'il arrive. C'est en tout ?
Mais ils ont pas de
non, c'est ça. Cadet, c'est fini, maintenant on appelle ça les juniors.
Tu attaques directement les juniors.
C'est ça, junior.
Oui, donc il y a aussi une disparité quand même, hein, entre 12 et 18 ans. Ça fait quand même pas mal.
6 ans, les juniors.
Ouais, Romain, il a mieux compté.
C'est ça. Ses et
12 à 18, ça fait 6.
Ça dépend. Et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, bon, et 17, et 18, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans.
Alors, dernière question concernant justement le club de Carpentras. Il y a combien d'adhérents au club ?
On est beaucoup.
Ouais. On est beaucoup. Ouais.
Mais il y a une moto par joueur ou comment ça se passe ?
Non. Après, pour la première division, oui, chacun a sa moto. Après la deuxième division, pareil, ils ont chacun leur moto. Et les juniors, pareil, ils ont chacun leur moto. Après, donc, en première division, on est 8-9 joueurs moto, plus 2 gardiens. En élite 2, ils sont 6. 6 joueurs. Et junior, ils sont 7.
Donc c'est quand même un sacré budget quand même.
Ouais,
c'est une moto, c'est combien le prix ?
Alors une moto d'élite 1, il faut compter 6 500 € la moto.
Ah ouais, quand même.
En général, c'est le prix d'une moto de cross. Hein.
Ouais.
C'est ça en général.
Mais c'est le club qui la paye ou c'est le joueur ?
C'est le club qui la paye. Les motos, elles sont au club.
Le joueur s'en va, il garde. Le club garde sa moto.
Voilà,
normal.
C'est ça.
Ou même s'il y a des sponsors un peu généreux, on appelle au don d'ailleurs. C'est des sponsors qui nous écoutent, n'hésitez pas. Venez toquer à la porte.
Voilà. Bah, surtout que Carpentras est la meilleure équipe pratiquement de France. Hein,
bah oui.
Devant Monteux.
Champion de France. Non, mais
c'est un sujet épineux au motoball parce que déjà, les motos ça coûte cher. Là, en l'occurrence, il doit y avoir quelque chose comme pas loin de 25 motos au club. Et du coup, c'est un budget. Et puis, c'est un budget aussi parce que. C'est des sabraques quand même.
C'est les réparations, les joueurs de motoball. Les déplacements, c'est l'essence aux entraînements, le séance au samedi.
Surtout qu'en ce moment, l'essence coûte cher. Hein.
Sur 3 équipes, ça, c'est un gros budget. Ouais.
Ouais,
on emmène à beaucoup. Christophe aussi, qui est très efficace. Hein, vous avez, c'est vrai, Christophe.
Oui,
président, quand même président très, 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 très efficace. Hein.
Puis les déplacements aussi, quand tu vas à Poitiers ou quand tu vas à Épinal,
c'est
ou à Beaujecourt,
c'est onéreux.
Mais comme il y a plus de clubs dans le sud, c'est un avantage. Quoi.
Ça, c'est sûr, c'est un avantage. Pour nous, c'est un avantage.
Ça, c'est clair.
Oui, parce que quand tu vois, par exemple, on va dire Poitiers, enfin pas Poitiers...
Oulgat,
ouais.
Lui, par contre, il se déplace systématiquement. Hein.
Un week-end sur deux, ils sont dans le sud.
Et sinon, au club, on peut adhérer encore ou c'est quand même assez... Comment ça se passe ? Il faut prendre rendez-vous
Le mieux, c'est de se déplacer, voir le match. Hein. C'est vrai que c'est le moyen le plus facile. Après, le contact, il se fait naturellement. C'est vrai que c'est des clubs, c'est un peu comme une famille. Donc, on y rentre... On vient voir des matchs, on commence à discuter avec 2-3 personnes. Ah, tiens, c'est le président, je vais y rentrer. Ça va très vite.
Après, il y a des essais.
Ouais.
Mais n'importe qui n'a pas beaucoup d'expérience peut. Mais il faut au minimum 12 ans, hein, c'est ça ?
Oui.
Au club, c'est 12 ans.
Ouais. Pour les juniors, c'est 12 ans.
Pour les juniors, ouais.
Et est-ce que Carpentras, on peut dire que c'est un club de formation? Parce que je sais que Christophe, justement, parce qu'on le reçoit chaque année, hein, on a la chance de le recevoir chaque année, et il en avait fait son cheval de bataille, la formation.
Ça l'est toujours.
Voilà. Ça lui a donné d'ailleurs raison. Hein, un titre de champion de France,
c'est pas pour
cette année.
Ça vient pas tout seul.
Ça devrait être le cheval de bataille de tout le monde.
Oui. Lui a été un visionnaire, hein, Christophe, parce qu'il l'a fait il y a plusieurs années, il a mis ça en place il y a plusieurs années, et ça a donné ses fruits.
Et d'ailleurs, les clubs qui n'ont pas formé ou qui se sont chamaillés, je pense notamment du côté de Vaison, là, où ils se sont chamaillés entre Vaison, ils avaient créé l'enclave à un moment aussi.
Il y avait Jonquière,
Bolène. Enfin, tous ces clubs-là qui s'entretuent et qui oublient de former, ben, au bout d'un moment, ça explose et ça met du temps à revenir.
Le règlement en élite 1, c'est obligation d'avoir une équipe junior pour...
C'est une bonne chose.
Ouais, ça avait été l'objet d'un litige d'ailleurs entre Carpentras et Monteux il y a une paire d'années, non?
Oh, il y a plus longtemps que ça. Hein.
Non, mais ils n'étaient pas nés.
4 ans.
Voilà.
4 ans.
Bon, ben en tout cas, merci les gars d'avoir accepté notre invitation. Donc
merci,
on salue Christophe Bartolo, le président, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il avait un rendez-vous professionnel. Mais en tout cas, vous avez levé les couleurs de Carpentras et du motoball très très haut ce soir. Et on était vraiment ravis de vous avoir avec nous.
Je voulais juste te poser la question. Les entraînements reprennent en janvier ?
Janvier.
Après physique, la trêve.
Et mi-février, moto.
Ouais.
Mi-février, moto. D'accord. Donc si on veut vous voir... On va sur le stade du motoball à Carpentras.
Tu veux t'y mettre ?
Non. Non. Déjà, il n'y a pas de femmes.
Bah, justement.
On ne parle pas, il n'y a pas de femmes.
Il y a eu des femmes. Il y a eu des filles. Ah, en junior, oui.
Ouais. C'est dommage qu'elles n'aient pas persévéré.
Qui jouent à Monteux.
Ah oui.
Ah oui, tu vois.
Ouais, et qui n'ont pas persévéré.
Ne regarde pas comme ça.
Non, il n'y a pas de cheveux. Allez, sur ce, on fait une petite pause.
RTVFM.
Voilà, de retour dans l'émission pour la dernière partie. Et cette dernière partie, bah, elle était je voulais la consacrer justement au, bah, au direct qu'on a fait mercredi dernier. Valérie, Jean-Yves, donc 32e de finale, Sorg contre Foss. On en a parlé en début d'émission. Très très beau résultat de Sorg. Catastrophique pour Foss parce que je crois que dans les vestiaires, ils se sont fait totalement démonter par leur entraîneur.
Ils se sont fait désinguer par l'entraîneur.
Parce qu'ils sont pros alors que Sorg est semi-pro.
Et j'ai discuté après le match avec le capitaine de Sorg, de Foss, qui m'a dit ce qu'on a fait là, c'est indigne, c'est indigent, on n'a pas respecté le sport, on n'a pas respecté notre adversaire, et c'est bien fait ce qui nous arrive.
Ouais.
Alors après, en même temps, avant le match, le directeur technique m'avait dit qu'ils allaient utiliser ce match comme un gros match d'entraînement pour faire tourner justement et pour voir un système de jeu différent et tout. Je pense surtout que ce sont les Sorgués qui ont fait un match de fou et qui avaient bien préparé leur plan de jeu, qui avaient bien préparé leur système défensif. Avant le match, pareil, j'avais eu l'occasion de discuter avec l'entraîneur dans le vestiaire et qui m'avait dit ben voilà, on a mis des trucs en place, on a beaucoup bossé cette semaine. Si on est toujours collé à la mi-temps, et ben on jouera le truc. Si on n'est pas collé à la mi-temps et qu'on a pris un éclat de 30 points, on lâchera. Ben voilà, à la mi-temps, ils étaient toujours, je crois qu'ils
étaient à égalité parfaite.
Ils étaient à égalité. Hein. Mmh. Et ben voilà, ils ont joué le truc à fond et puis bien leur en a pris. Alors après, le risque de ça, et ben c'est la décompression à laquelle on a assisté ce week-end. C'est-à-dire que quand tu montes très très haut en termes d'intensité, probablement que vous connaissez ça aussi, mais quand tu as beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions, pour revenir à l'ordinaire, on va dire, le week-end d'après, là, en l'occurrence, c'était 3 jours après, c'est compliqué.
Ouais.
Parce qu'il y avait un stress quand même sur le terrain, parce que c'était Sorg qui menait, ensuite c'était Foss qui menait. C'est vrai qu'on a assisté à ça, et à chaque fois il se tirait la bourre, on va dire. Hein.
Ouais, et puis en plus la décision, elle se fait quasiment au buzzer, elle se fait à 4 secondes. Ouais. Donc forcément, oui, il y a eu une énorme débauche d'énergie. Il y a aussi du côté de Sorg, je ne vais pas trahir les secrets, mais il y a des joueurs qui n'ont pas non plus respecté tout ce qui avait été mis en place. Et voilà. Après, c'est compliqué aussi pour un groupe de se remotiver derrière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu fais vraiment une énorme performance, le match d'après, souvent, tu as le contre-coup. Tu émotionnellement.
Ouais, tu es arrivé.
J'y suis arrivé. Émotionnellement, il faut t'y remettre. Quoi. Il faut revenir sur terre.
Ouais. On connaît l'adversaire des 32, des 16e ?
Pas encore. Par contre, ça sera forcément une grosse équipe, puisque ça sera au minimum une Pro B ou une Pro A, à moins qu'ils tombent sur Schuffel, puisque les deux seules équipes qui ont battu des Pro A, ce sont Sorg et Schuffel. Donc, ça sera forcément une grosse équipe. Après, il n'y a aucune ambition du côté de Sorg. D'aller très loin, ils n'ont pas le groupe pour ça.
C'est de jouer.
Voilà. C'est de jouer.
De faire un beau match.
Puis d'utiliser ces matchs pour préparer la saison. En fait, c'est des matchs, on va dire, à balle réelle. C'est toujours intéressant de les jouer correctement pour savoir jusqu'où tu peux amener ton groupe. Quand tu es entraîneur, par exemple, c'est intéressant de savoir jusqu'où tu peux amener ton groupe.
Alors, il reste 3 minutes. Revenir sur quand même un match d'anthologie. C'était samedi. L'équipe de France de rugby à 13 qui devient championne d'Europe.
Oui.
Hein, donc, magnifique match contre l'Écosse.
Championne d'Europe avec là aussi, on va le signaler, mais un coach vauclusien, Renaud Guigue. Des joueurs vauclusiens. Mika Goodman qui a fait un énorme match. Benjamin Julien aussi, le second de ligne qui était sur la pelouse. Le manager des équipes de France maintenant.
De nouveau, hein, parce qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps. Il y a même pas un mois.
Katabi, pareil, on a eu l'occasion de blaguer un long moment avec lui avant le match. Et puis, bien sûr que c'est important ce genre de bons résultats pour le rugby à 13, parce qu'on est un petit sport, pas beaucoup médiatisé. Alors les Dragons, la victoire des Dragons en coupe d'Angleterre, en Cup, avait fait énormément de bien, avait fait beaucoup parler. La victoire en championnat d'Europe, ça fait un peu moins parler parce que c'est un peu le championnat, on va dire, la deuxième division. Hein, l'Angleterre n'est pas dans le truc. Il y a juste l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles. Mais en tout cas, C'est quand même 3 victoires sur 3 matchs et c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, ça valide la participation à la Coupe du monde de 2021 qui aura lieu en Angleterre avec là par contre toutes les équipes. Et puis ben voilà, maintenant ils sont qualifiés, ils ont 3 ans pour bosser. Ils ont inclus pas mal de jeunes joueurs dans le groupe. Renaud nous le disait avant le match, qu'ils avaient fait le choix de mettre des cadres au repos. Baïteri était au repos, Tony Gigot était au repos. Il y avait des blessés aussi, je pense notamment à Ben Garcia, l'autre Vauclusien de la bande, qui est blessé. Et du coup, ben, voilà, ça donne une équipe qui a un petit peu de volume, un petit peu de constance. Et,
oui, rajeuni aussi.
Et rajeuni, on a vu des gamins, là, comme le petit Belmas, par exemple, qui a joué, il a 21 ans, lui. Il a joué tout le match pilier. Bon, voilà, ça...
Et Morgan également. Morgan Escarré,
c'est... Il
est homme du match.
Morgan Escarré, homme du match. Alors, c'est dommage parce qu'on avait une belle interview, mais elle a disparu. Mais,
mais la semaine prochaine.
Non, elle est restée à la maison. Elle s'est mariée.
Mais voilà, ouais, en tout cas, Morgan a fait le boulot. Et puis, à noter aussi la gentillesse de l'ensemble du staff de l'équipe de France qui nous a laissé travailler, qui nous a même laissé rentrer dans les vestiaires.
Enfin, et qui nous a vraiment bien, bien accueillis.
On a été
comme des rois, franchement.
Vraiment bien accueillis par Xavier Vasson. Le président de la Ligue, qu'on recevra très bientôt d'ailleurs,
oui,
pour faire un point avec lui sur l'état du rugby à 13 dans la région et à quelques semaines de l'ouverture du championnat.
Bon, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. L'émission se termine. Vous nous retrouvez bien sûr en rediff mercredi matin à 6h30. Le podcast mercredi dans la journée. Merci Théo, notre technicienne ce soir. Merci Valérie. Voilà. Merci mon petit Jean-Yves.
Et la semaine prochaine, on reçoit
le kickboxing pernois. Voilà. Bonne semaine sportive à tous et à toutes.